Vous écoutez RTL.
RTL.
Puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction.
Un peu de poivre, un peu de sel.
C'est comme l'écume sans le sel. C'est comme le sel sans le poivre.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Très bonne soirée à tous.
Quel est le point commun entre PPDA, Salt and Pepper, Les Inconnus et Tonya, Eurovision 66? Sidonie, c'est le poivre. Évidemment, pendant ces vacances de Noël, synonyme de fête et de bon repas, on aime découvrir l'histoire des produits les plus simples et les plus essentiels de nos tables. Et donc, ce soir, dans la curiosité, on vous raconte l'histoire du poivre avec notre invité, Erwan de Kéros. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors, vous nous avez fait goûter du poivre juste avant que démarre l'émission. Et on a tous... un peu, comment dire, la laine pimentée, c'était fort.
Qu'est-ce c'est un peu violent, mais qu'est-ce que c'est bon ?
Qu'est-ce que vous avez fait goûter ?
Oui, là, c'était un assemblage de poivre Piper Negrum, principalement Penja, Kampot, Telicheri. Donc, c'est vrai qu'ils sont un petit peu relevés, un petit peu chauds.
Ça m'a donné encore plus de pêche, c'est normal, cet effet poivre ?
Oui, c'est normal, c'est le deuxième effet.
D'accord.
C'est très bien. Alors, on l'a compris, avec tous ces noms là, magiques que vous venez de prononcer, on va voyager grâce à vous, Erwan de Kéros. Vous vous définissez comme un passeur d'épices. Le poivre est devenu l'une de vos passions après un séjour au Cameroun, on va raconter ça tout à l'heure. Alors, quand on dit le poivre, en fait, ce qu'on a compris en voyant arriver avec plein de petites boîtes, on devrait dire les poivres. Il y a combien d'espèces ? On peut les compter ?
En fait, le poivre, c'est une famille d'une extrême et d'une grande diversité, et en plus qui est assez difficile d'appréhender dans la mesure où selon la période et les pays dans lesquels nous nous trouvons, la définition même de ce qu'est un poivre est différente selon que l'on soit français, camerounais, népalais, etc. Et aussi à travers l'histoire.
Parce que ça vient pas de la même plante, c'est ça différents pays ?
Alors, il y a une grande diversité à travers les poivres qui passe aussi et avant tout par la diversité botanique, c'est-à-dire de quelle plante est issu le poivre. Peut-être devrais-je rappeler juste une définition générale du poivre. Qu'est-ce qu'un poivre, en fait ? Ce poivre que l'on a toujours connu, puisque vous et moi, on a toujours connu un moulin à poivre dans les cuisines de nos grands-parents. Enfin, depuis toujours, le poivre a toujours été là.
Donc c'est le copain du sel, quoi.
On le connaît tous, mais c'est aussi un petit peu le grand inconnu. Voilà.
Pour ça que vous êtes là, d'ailleurs.
Parfois, le grand inconnu.
Pour nous faire connaître. Ouais.
D'ailleurs, ce mot poivre, ça vient d'où ? C'est quoi le sens du mot poivre ?
Alors, le mot poivre, ça vient du sanskrit, puis du grec, puis du latin, pipali, qui est devenu piper, puis pévré au Moyen-Âge, ou pèvre vers le XIIIe siècle, et ensuite poivre, le premier nom poivre apparaît au XIVe. Voilà, donc le poivre, c'est une épice entière que l'on concasse, que l'on utilise en cuisine, que l'on concasse plus ou moins finement, et qui est plus ou moins piquante. Voilà, ça c'est la définition, je dirais, historique et ethnologique du poivre.
Et puisqu'on est dans la sémantique, on aime bien le sens des mots. Je disais tout à l'heure, vous êtes un passeur d'épices. Ce mot épice, il désignait quoi il y a plusieurs siècles ?
Alors ce mot épice, qui vient du latin species, en fait désignait tout ce qui est exotique au sens très large, sec, qui vient et qui provient des pays exotiques au sens large. C'est-à-dire que l'épice, au Moyen-Âge et avant, c'était aussi bien le riz, le chocolat et bien sûr les poivres. Enfin, tout ce qui était sec, condimentaire et exotique.
Et qui venait de loin.
Le sucre aussi.
Et qu'on trouvait chez l'épicier.
Et qui venait de loin, donc lié effectivement à cette grande histoire des grandes découvertes.
Est-ce que ces épices ont été utilisées en médecine aussi ? Avec quelles vertus, par exemple ?
On donne aux épices de grandes vertus thérapeutiques dans toute l'histoire. Il est utilisé aussi dans la momification, donc 1500, 2000, 3000 ans. On retrouve aussi des traces d'épices en usage culinaire, même il y a 6000 ans en Europe du Nord.
Et alors, par exemple, le poivre, son utilisation, sa consommation remonte à quand ? Dès l'Antiquité ?
En fait, l'utilisation du poivre, c'est l'utilisation en cuisine, c'est simplement le principe même de parfumer en cuisine. Donc cet usage, cette utilisation remonte à la nuit des temps.
Et dans l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Romains, c'était un produit de luxe ?
Bien sûr, le poivre a toujours été, enfin au travers des siècles, considéré comme un produit de luxe, car très cher, très rare, venant d'extrêmement loin,
ouais.
Et portant en lui, si vous voulez, toute la magnificence de la nature, tout ce qui nous est inconnu, en fait, tout ce qui nous est presque inaccessible d'une certaine manière, et nouveau.
Du coup, ça lui donne de la valeur. Dans votre livre « Terre de poivre », qui est publié aux éditions de La Martinière, vous racontez, tiens, par exemple, une histoire qui remonte à loin. On est au 5e siècle, 410. Les Goths font le siège de Rome. Que demande leur chef Alaric pour lever le siège de Rome?
Il demande de l'or, il demande des bijoux et il demande en particulier 3000 livres de poivre. La valeur du poivre se compare à celle de l'or selon les époques. Donc c'est un enjeu économique majeur. D'ailleurs, le poivre est à l'origine de toutes les conquêtes, comme l'or. C'est pour le poivre que l'on a passé le cap de Bonne-Espérance. C'est pour le poivre qu'on est allé découvrir les Indes. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est incroyable, mais c'est un des grands moteurs de toutes les conquêtes.
Alors, on a parlé d'histoire grâce au poivre, et puis on a oublié une question, mais alors basique, il pousse comment le poivre? Sur quel type de plante? Réponse tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On vous dit tout dans la curiosité sur le poivre avec Erwan de Kéros, grand voyageur et créateur de la marque Terre exotique. Alors, question basique, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là. Il pousse comment, ce poivre? Il pousse où? Ça ressemble à quoi?
Alors, le poivre issu de l'espèce ou du genre Piper negrum est issu d'une liane. En fait, c'est une liane qui pousse sur un tuteur, vif ou mort selon les zones, et qui fleurit et qui arrive en production une fois par an.
Attendez, un tuteur mais posé par l'homme?
Oui, c'est ça.
C'est une plante grimpante, en fait.
Oui, c'est une liane grimpante.
Ah, d'accord.
Qui s'accroche à un tuteur. Et au Cameroun, par exemple, ou en Afrique, c'est des tuteurs vifs. Et en Asie, lorsqu'on a la chance d'avoir des bois imputrescibles sous la main, on utilise des poteaux, des chevrons, sur lesquels s'enroule la liane qui, à maturité ou à l'âge adulte, atteint une hauteur de 4 mètres, limité à peu près à 4 mètres de haut.
Comment on prend soin de ce poivre, de cette liane de poivre tout au long de l'année?
Donc la liane de poivre produit au bout de 5 ans à peu près. Donc pendant les 5 premières années, on taille la liane, on la rabat d'à peu près un tiers pour lui donner une forme un petit peu plus large, une générosité. Et ensuite, on récolte le fruit une fois par an.
Donc c'est saisonnier, c'est une seule fois par an.
Oui.
Ça ressemble à quoi? Tiens, parce que nous, on voit un grain de poivre arriver dans nos poivriers, mais ça ressemble à quoi avant la récolte?
Donc la fleur a une longueur, est assez fine, et une longueur de 5-6 cm, et au fur et à mesure de la maturation, ça va former une grappe de poivre avec les grains qui vont apparaître plus gros, qui sont au nombre à peu près d'une trentaine par grappe, et qui sont au départ verts. Et progressivement, au fur et à mesure de la maturation, la pulpe qui est verte et qui entoure le grain de poivre va tourner, rougir progressivement. Et lorsque la grappe de poivre est au tiers rouge, à ce moment-là, c'est le signal de la récolte annoncée. Et on peut à ce moment-là récolter le poivre et on en fait soit du poivre noir, soit du poivre blanc.
Alors ça, vous allez nous l'expliquer. J'ai découvert ça en préparant l'émission, en lisant votre livre « Terre de poivre » qui est publié aux éditions de la Martinière. Bon, je savais évidemment qu'on différencie les poivres par la couleur, mais moi, je pensais que c'était des espèces différentes. En fait, c'est plutôt la maturation, c'est plutôt l'âge du poivre qui lui donne sa couleur, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, le poivre du Moulin de la Table, celui que tout le monde connaît, il est donc globalement, il est vert, blanc ou noir. Donc avant maturité, on récolte le grain, il est encore enveloppé de sa pulpe verte et ça vous donne le poivre vert qu'on retrouve en saumure lyophilisé ou en saumure de sel ou déshydraté. Puis, lorsqu'on attend quelques semaines supplémentaires, le poivre arrive à maturité, le grain est formé et on le fait sécher juste après récolte au soleil. Et donc, la pulpe va se rétracter, noircir, se flétrir autour du grain. Et donc, vous avez cet aspect flétri du poivre noir.
C'est pour ça qu'il est fripé.
C'est pour ça qu'il est fripé. Noir.
Alors, le blanc, comment on l'obtient?
Le blanc, alors, on attend en général quelques semaines de plus, c'est-à-dire qu'on attend une maturité optimale du grain. La pulpe, là, est complètement rouge. Et à ce moment-là, on fait tremper le grain de poivre pendant une dizaine de jours dans de l'eau de source courante, de préférence. C'est ce qu'on appelle le ruissage. Et donc la pulpe va se décomposer, on débarrasse le grain de sa pulpe et ensuite on ne sèche que le cœur du poivre, le grain qui est blanc et lisse, On le sèche au soleil, il est ensuite calibré.
Ça doit être magnifique, ça, d'avoir des... C'est quoi, c'est sur des grands draps
Oui, c'est sur des grandes zones de séchage, ouais, qui sont, selon les pays, soit en béton, soit sur des bâches, soit sur même des nattes naturelles ou des feuilles de bananier. Et donc, voilà, il est séché comme ça, en général, au soleil.
Et Erwan de Kéros, quand on a plusieurs comme ça, maturations et plusieurs couleurs de poivre, vert, noir et blanc, est-ce qu'il y a des saveurs différentes associées à ces différents poivres, j'imagine?
Alors, d'une façon générale, le poivre noir est plus piquant que le poivre blanc, puisque la piperine, l'agent piquant, est présente dans la pulpe et non pas dans le grain. Donc, c'est pour ça que le poivre noir fait un petit peu éternuer, on dit. Alors que ce n'est pas du tout le cas du poivre blanc, ouais, qui est arrivé à une maturité supérieure. Il a une complexité aromatique plus forte, je pense. Il est moins piquant, il est un peu plus aromatique.
Alors, vous êtes venu avec plein de poivres différents. Est-ce que vous avez du poivre rouge, tiens, parce qu'on n'en a pas encore parlé?
Oui, alors le poivre rouge qui vient, celui-ci par exemple, du Cambodge, de Kampot, qui est donc...
Alors, on vous décrit la scène, là, Erwan de Kéros, il prend un peu de poivre, vous allez le moudre, vous avez un...
Oui, on peut le passer au mortier.
Vous avez un petit mortier.
Ce qui est intéressant dans le poivre rouge, c'est que vous avez à la fois le grain de poivre blanc qui est arrivé donc à parfaite maturité, ouais, à maturité optimale sur la liane, mm-hmm, c'est comme dans la nature, on attend les derniers instants pour que le grain se gorge de sucre et de saveur. Uh-huh. Et on a conservé quand même la pulpe qui était rouge, et donc dans un mode de séchage beaucoup plus lent, beaucoup plus doux et beaucoup plus long, on garde quand même la couleur rouge de la pulpe autour du grain de poivre blanc. D'une façon générale aussi, je pense que les poivres dansent autour du mortier, c'est-à-dire que lorsqu'on veut goûter 3, 4, 5 poivres différents, mmh, les assembler entre eux, un petit peu à la maison, le mortier a ça de très extraordinaire, c'est qu'on peut l'utiliser comme on le souhaite, un jour sur l'autre, et on peut utiliser n'importe quel poivre dans son seul et même mortier.
Donc ça veut dire que vous, quand vous préparez du poivre, quand vous faites la cuisine, vous utilisez un mortier?
Ah oui, moi j'utilise tous les jours un mortier. Et donc j'utilise un mortier pour concasser des poivres, des graines, des baies et d'autres follicules sauvages, mmh, mais aussi pour faire des propres assemblages avec 2-3 poivres ensemble.
Après les infos, la suite de l'histoire du poivre, ou plutôt des poivres.
Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes curieuse, vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 22h.
Tout à l'heure, on fêtera le 40e anniversaire de cette chanson.
Cette année-là.
On verra pourquoi Clo-Clo est resté aussi moderne et populaire 4 décennies plus tard.
Mais tout de suite, on va essayer de ne pas éternuer, justement. Ça serait bien à la suite de l'histoire du poivre.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Elle me dit, dis donc. Elle voit que j'ai des cheveux blancs qui commencent à pousser quelques-uns, pas beaucoup, mais un petit peu, voilà, c'est normal, c'est l'âge. Et je pense qu'elle veut tenter l'expression poivre et sel. Hein.
Jusqu'à 22h.
C'est pas sorti du tout comme ça de sa bouche. Cheveux poivre et sel, elle m'a regardé, elle m'a dit « Antonika !» Ça vous va très bien, les cheveux assaisonnés.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Tenir la formule,
là,
pas
c'est
mal.
C'est pas mal, les cheveux assaisonnés. Gad Elmaleh dans ses heures, évidemment, les Beatles, Sgt Pepper, et puis les Red Hot Chili Pepper. On vous parle du poivre dans la curiosité avec notre invité Erwan de Kéros, qui publie Terre de Poivre aux éditions de la Martinière. Tiens, Sgt Pepper, vous avez aussi une marque qui s'appelle Terre Exotique. Il y a un produit qui porte ce nom-là, c'est ça? C'est quoi?
Oui, il y a une gamme nouvelle qui s'appelle Sgt Pepper et qui est en fait une manière de garder 6 différents assemblages de poivre dans la poche, une manière nomade d'utiliser le poivre au quotidien.
Alors c'est dans des boîtes de cachou, attention, parce que vous nous avez proposé, on a cru que c'était des bonbons, ben bon, c'était du poivre. Mais
voilà, il y a une forme il y a une certaine forme addictive dans cette consommation de poivre au quotidien qui est intéressante et amusante. Oui. Oui.
Alors on parle de poivre, donc on parle de cuisine dans votre livre Terre de poivre à la Martinière. Il y a d'ailleurs des recettes des chefs Didier Hédon et Olivier Arlot. On va raconter un peu votre histoire, Erwan de Kéros, et ça commence par un séjour au Cameroun. Vous partez dans quelle région et pour faire quoi?
Bon, je pars à Penja, un petit peu par hasard, à la fin de mes études, et je devais rester quelques mois pour m'occuper d'une plantation de poivre, voilà, qui est située à une centaine de kilomètres au nord de Douala. Et en fait, l'histoire commence comme ça, et elle a duré 4 ans. Donc pendant 4 ans, j'ai eu le bonheur et la joie de cultiver du poivre dans une plantation familiale d'une centaine d'hectares et qui produisait ce merveilleux poivre blanc de Penja. Enfin, on fait aussi du poivre noir maintenant, mais à l'époque surtout du poivre blanc.
Quelle est sa particularité à ce poivre de Penja au Cameroun ?
Ouais, je crois que c'est grâce à un terroir volcanique qui est naturellement très riche, très équilibré, un climat aussi. Il faut savoir que la liane de poivre a une durée de vie d'une trentaine d'années et qu'il y a un effet terroir incontestable sur les différents poivres selon qu'ils vous viennent du Brésil, d'Inde, d'Indonésie ou du Cameroun. Je parle là des poivres Piper Nigrum, le poivre blanc noir du moulin, le roi des épices si vous voulez.
Donc c'est comme pour le vin. C'est-à-dire que la qualité du sol,
le climat
influe sur le goût. Quoi, tout
absolument, a une influence incontestable sur l'arôme et les caractéristiques des poivres. Ouais. Et le poivre de Penja, bon, a cette chance d'avoir cette caractéristique un peu mentholée, un petit peu une note animale aussi, et est devenu, il y a 2 ans, la première IGP, Indication Géographique Protégée du continent africain. Donc,
c'est bien.
C'est quand même
une grande fierté.
Comme nos AOC,
en quelque sorte.
Et pour tous les amateurs de poivre.
C'est ce poivre de Penja qui vous a donné envie de vous spécialiser dans les épices ?
Oui,
et de commencer à faire des mélanges, des créations, à importer d'autres épices ?
Voilà, un peu par hasard, vous savez, c'est les rencontres comme ça et les hasards de la vie. Et après, effectivement, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on sillonne le monde à la recherche de baies, de graines, de poivres, et que l'on les présente aux restaurateurs, aux épiceries fines.
Ça se transforme facilement, le poivre ?
Est-ce que c'est fragile ?
Parce que quand on voit la petite graine comme ça, un peu fripée, qu'on connaît nous en France, la graine basique de poivre noir, on se dit, bon, ça craint rien, ça.
Alors, c'est pas fragile. Tant que c'est conservé entier ou en graines, dès que c'est moulu, évidemment, les huiles essentielles s'évaporent très vite et c'est pas très bien pour la conservation.
Alors, votre société, elle est basée au bord de la Loire. Vous vendez, vous nous l'avez dit, à des chefs et puis aussi dans des grands magasins, des épiceries fines. Est-ce que vous avez des goûteurs de poivre ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui sillonnent la planète pour trouver les meilleurs poivres ?
Alors, bon, c'est un travail collectif à travers notre passion, les échanges, les voyages, les marchés. On est sollicité par des producteurs aussi qui nous envoient des échantillons qu'on étudie avec plaisir. Après, c'est surtout une affaire de rencontre et d'ouverture d'esprit. Parce que...
ça se goûte comment ? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a des palais, vraiment ?
Ce qui est amusant, oui.
Bah, des palais à poivre ? Des gens qui ont un talent particulier pour reconnaître un bon d'un mauvais poivre ?
Ce qui est amusant, c'est que pour nous, par exemple, la baie des Bataks, qui vient du lac Toba au milieu de l'île de Sumatra, c'est le poivre des Bataks de leur quotidien. Ils l'utilisent matin, midi et soir, et depuis toujours. Et pour nous, c'est totalement inconnu. Donc il y a cette espèce de rapport à l'inconnu qui peut paraître précieux, mais en réalité qu'il ne l'est pas, il l'est par rapport à notre culture. Donc à la fois le poivre du quotidien de Sumatra devient pour nous un objet ou une épice de grande curiosité, de grand intérêt, presque précieuse. Donc moi j'aime bien cette dichotomie et cette double lecture des choses.
Mais dans votre livre vous dites que parfois il faut le faire infuser pour le goûter.
Oui, alors voilà, dans la dégustation du poivre ou dans l'usage du poivre, disons que ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre un usage, presque du quotidien. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut rentrer un petit peu dans le plaisir et le jeu. Et le jeu de l'usage du poivre, et y compris de son assemblage maison, soi-même. Et c'est pour ça que j'en reviens aussi au mortier, car quand on a un mortier chez soi, on peut très facilement concasser un poivre de ceci, un poivre de Telichéry, une baie de la Passion, une Kororima d'Éthiopie. Et à un moment donné, on rentre dans une histoire, dans une créativité de l'instant qui est très intéressante
et
qui est très riche.
Et on retrouve des arômes un peu comme dans le vin, c'est-à-dire, j'en sais rien, fruités, des agrumes, plus minérales. Etc., etc.
Oui, vous avez
les mêmes termes qu'on emploie ?
Des notes, absolument, des notes herbacées, végétales, animales, caramel, boisées, musquées, ambrées, etc. Enfin, c'est d'une grande diversité.
Bon, on va continuer de voyager grâce à vous, Erwan de Carros, parce qu'il y a encore plein de pays à poivrer, à visiter. Puis tiens, pendant la pause, là, on va goûter quelques-uns de vos poivres. À tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Pendant les fêtes, on passe à table dans la curiosité. Et ce soir, c'est le poivre qui nous passionne grâce à notre invité, Erwan de Kéros, qui publie avec Bénédicte Bortoli, Terre de poivre. C'est aux éditions de La Martinière. Et Erwan de Kéros, avec votre société Terre Exotique, vous allez à la rencontre des producteurs. Et les producteurs viennent aussi à votre rencontre pour vous faire découvrir des poivres. Quelles sont les meilleures zones de production aujourd'hui pour le poivre dans le monde?
Alors, d'une façon générale, on veut le mieux. Oui, alors d'une façon, c'est difficile de répondre à votre question, je suis désolé. D'une façon générale, c'est la ceinture intertropicale. Mais on trouve des poivres aussi, par exemple, à l'extrême sud du Chili, à l'île de Chiloé. Donc, on n'est plus du tout dans l'exotisme, mais il y a des baies qui poussent et qui sont utilisées par les Mapuches, les Indiens Mapuches, de façon usuelle comme un poivre.
Zone tropicale, vous avez dit, parce que le poivre a besoin de chaleur, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le poivre, absolument, le poivre pousse dans la zone intertropicale. Il faut un climat chaud et humide avec une saison sèche, alternant saison sèche, saison humide, assez marquée aussi pour pouvoir faciliter la floraison.
Tiens, on va refaire un peu d'histoire. Il apparaît où? Est-ce qu'on a pu trouver la terre d'origine du poivre sur la planète et ensuite comment il s'est diffusé, si j'ose dire, un peu partout?
Oui, l'origine du poivre au niveau botanique, c'est le sud-ouest de l'Inde, très précisément. Et au fur et à mesure de l'histoire, du déplacement, du commerce et de l'influence du commerce, il s'est implanté en Asie du Sud-Est, en Indonésie, au Vietnam, au Cambodge, etc., etc. Un des derniers exemples d'implantation du poivre Piper Negrum en dehors de son berceau originel, et après le Brésil, c'est peut-être le Cameroun, puisque c'était dans les années 30. Et probablement qu'à l'époque 15-16e siècle, la grande époque hollandaise, il y a eu beaucoup de plantations de poivre installées en Indonésie aussi.
Erwan de Kéros, dans votre livre, il y a aussi des recettes de l'histoire, mais aussi de la botanique. Et le poivre, au sens strict, en fait, ça vient de quelle famille de plantes?
Alors, ça vient de la famille des Piperacées. Oui. Qui est donc une famille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la lecture des poivres, on a cet aspect extrêmement important de botanique. Mais à partir du 18e siècle, Linné commence à et tous les botanistes classifient la nature et fixent et donnent des noms aux plantes. Et donc c'est là qu'apparaît le nom Piper, Piper Negrum, Piper Longum, Piper Cubeba, etc. Différents Piper. Et aussi d'autres poivres qui sont issus d'autres espèces botaniques, comme les Anthoxylum. Alors c'est un petit peu compliqué, mais si je vous dis Sancho, Sichuan, Timur, ça, tout ça, c'est des poivres qui sont issus de la famille ou du genre des Anthoxylum. Ils ont chacun une note citronnée. Pamplemousse, agrumes.
Alors vous êtes venu avec une carte des poivres. Puis alors il y a des noms qui font rêver. Là-dedans, par exemple, il y a la graine de la paix. Alors ça vient d'où ça, la graine de la paix?
Alors la graine de la paix, appelée jujube, c'est camerounais. Enfin, ouais. Ça pousse dans l'ouest camerounais, dans le pays Bamileke. Et c'est utilisé, à la fois c'est un peu comme un porte-bonheur, et les Bamileke échangent les graines, s'échangent entre les graines en signe de paix.
Voilà. Il y a des terres françaises où on produit du poivre, oui, j'imagine, en allant vers quoi, l'île de la Réunion ou dans ces coins-là, on va trouver des poivres français.
Il y a la baie rose à la Réunion ou à l'île Maurice, Madagascar aussi, bien sûr, ouais. Qui n'est pas français, mais qui est pas loin et sur laquelle pousse énormément de poivre.
Oui, vous avez un poivre coup de cœur, un poivre dont vous vous séparez jamais, qu'il y a toujours au fond de votre poche pour aromatiser, je sais pas, vos entrées, vos plats, vos desserts.
Oui, alors c'est bien sûr, j'ai toujours un poivre coup de cœur historique, classique, le penja blanc, mais en ce moment... Le
penja blanc, donc ça vient d'Inde, ça?
Penja blanc, c'est Cameroun.
Ah non, penja, c'est celui de... J'avais entendu penjab.
Mais vous savez, Thomas, c'est le premier poivre de sa vie.
Mais oui, mais je sais, mais ça, j'ai entendu le début de l'émission, je ne dormais pas à ce moment-là. Mais là, mon oreille sourde a entendu penjab, c'est pour ça.
Effectivement, il y a du poivre aussi en Inde, dans cette zone-là, donc il y a souvent une confusion qui est faite.
Donc ça, c'est normal, parce que c'est votre histoire personnelle qui vous relie au Cameroun.
le poivre lui-même vraiment qui est vraiment considéré comme un grand cru depuis déjà une quarantaine d'années en fait. Alors en ce moment la bétimure népale est très en vogue, très pamplemousse, moi j'utilise énormément. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi c'est le timiz qui est un poivre long qui vient d'Éthiopie et qui a des notes de caramel.
Vous nous le concassez un peu qu'on puisse le sentir. Donc note de caramel, ça me surprend déjà d'imaginer du poivre avec une note de caramel.
Est-ce que ça veut dire que du coup on peut l'utiliser dans des desserts, Erwan de Kéros,
oui,
ce poivre?
Oui, alors l'usage du poivre qui n'est pas forcément piquant, je tiens à le dire, et qui est avant tout très aromatique, il est complètement protéiforme. C'est-à-dire qu'on utilise un poivre concassé sur un fromage de chèvre, c'est merveilleux. Donc le fromage, mais
c'est
en dessert, salade de fruits. Ça vous rehausse une salade de fruits, une salade d'agrumes, de saison, d'orange. C'est fantastique.
Vous n'êtes pas prêteur parce que vous l'avez concassé, mais vous ne le faites pas goûter, votre poivre caramel.
Bon, Thomas, je vous donne ma part.
Allez.
Alors, les goûteurs de
le
poivre,
voilà qui passe, ce sont
nos producteurs, d'une façon générale, qui nous sollicitent et qui nous accompagnent, qui nous emmènent vers eux, vers leur histoire, qui nous parlent de leur métier. Et puis, c'est aussi tous nos clients, les chefs.
Il est fumé, ce poivre ?
Oui, il est de notre fumée.
Ah, oh, il est délicieux.
Ouh, c'est très bon.
Ah, oh, moi je vais le manger juste comme ça, moi.
Bon, après il y a le deuxième effet, hein, qui pique un tout petit peu quand même.
Piquant, celui-ci. Ah,
c'est pour ça qu'on va conclure cette interview, je crois.
C'est peut-être parce que vous en avez concassé plusieurs depuis le début de l'émission et qu'ils se sont un peu mélangés. Mais c'est délicieux.
Oh, c'est un régal.
Et surtout, moi je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est tellement plus riche que les poivres de base qu'on achète dans le commerce. C'est ça aussi la leçon de l'histoire.
Par exemple,
quand on le concasse soi-même.
Dans ce poivre long, le timiz, vous avez des arômes de tabac. Très intéressant.
Écoutez, vous avez ouvert notre esprit et notre palais. Merci beaucoup, Erwan de Kéros.
Merci, merci, merci. Votre livre « Terre de poivre » écrit avec Bénédicte Bortoli est publié, je le rappelle, aux éditions de La Martinière.
Merci à vous. Dites-lui que je suis et dans un instant, retour non pas en 1962, mais en 76 avec Claude François.
Vous écoutez RTL.